Il est 21h30 à Goma, une heure de moins à Paris. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité africaine, la situation en République démocratique du Congo après l'entrée de combattants du M23 et des militaires rwandais à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Goma, où des tirs étaient encore entendus ce matin. Depuis, ils se sont nettement estompés. À Kinshasa, des manifestants se sont rassemblés devant plusieurs ambassades pour protester contre l'inaction de la communauté internationale. Et puis au Bénin, la reprise du procès de l'homme d'affaires Olivier Boko et ses co-accusés. Ce mardi, les prévenus se sont présentés sans conseil, mais la cour a décidé de poursuivre les débats. Les deux principaux accusés ont choisi d'observer le silence. On parlera aussi de la mobilisation dans plusieurs villes du Burkina Faso pour célébrer le retrait des pays de l'AES de la CDAO. Un retrait qui sera effectif ce mercredi à Ouagadougou. Des milliers de personnes se sont rassemblées, place de la Révolution. En République démocratique du Congo, la situation à Goma a donc provoqué des mouvements de colère à Kinshasa, la capitale. Plusieurs ambassades, je vous le rappelle, ont été prises pour cible. Des magasins, des restaurants et même des maisons ont été pillées. Les autorités annoncent que la situation est désormais sous contrôle. À Kinshasa, le récit de Pauline Azili.
Les rassemblements ont commencé tôt ce matin. Certains en réponse à un mot d'ordre de ville morte pour ce lundi. Après l'Imété, les manifestants ont atteint la Gombe, le centre administratif de Kinshasa, et se sont dirigés vers plusieurs ambassades, Belgique, États-Unis, France, Ouganda ou encore celle du Kenya. La tension a été forte une grande partie de la matinée. Des pillages et des dégradations ont été signalés dans plusieurs d'entre elles. Un incendie a même touché les bureau de l'ancienne ambassade du Rwanda actuellement fermée. Des magasins, des restaurants ainsi que des habitations ont aussi été pris pour cible. Les manifestants voulaient exprimer leur colère après les derniers événements dans l'Est. Ils dénonçaient l'inaction, la complicité de la communauté internationale. La situation a commencé à se calmer dans l'après-midi. Le gouvernement a lancé plusieurs messages pour appeler au calme. Que chacun rentre chez soi, votre colère a été exprimée et entendue, a notamment lancé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et on attend maintenant une prise de parole du président Félix Tshisekedi. Prise de parole annoncée hier soir par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à la sortie d'une réunion interinstitutionnelle. Et puis à Goma, la journée a été marquée par d'intenses échanges de tirs ce matin dans la zone de l'aéroport. De fortes détonations ont été entendues dans les quartiers Birere et Biyovu. Bonsoir Pierre Firsion.
Bonsoir Zéphirin.
Et cet après-midi, la situation est apparue un peu plus calme.
Oui, c'est un calme précaire qui est observé depuis cet après-midi. Des tirs d'artillerie résonnaient encore ce matin au centre-ville et dans la zone de l'aéroport, zone où des éléments du M23 ont été aperçus. Depuis, la situation est à la calmie. L'aéroport est toujours à l'arrêt, et ce depuis plusieurs jours, alors que c'est là le principal point d'entrée de l'aide humanitaire. Aide qui a été ciblée aujourd'hui. Un entrepôt du PAM a été pillé. Le Programme alimentaire mondial qui alerte au sujet du manque de provisions de la population. Les prochaines 24 heures seront cruciales, déclaré l'organisation onusienne à la mi-journée. Au centre-ville, certains habitants ont profité de cette relative accalmie pour sortir, notamment au marché Kitoukou, marché de nouveau accessible. Mais signe de la violence des combats passés, ces habitants disent avoir vu de nombreux cadavres dans les rues. Une situation dramatique que confirme Bruno Lemarquis, le représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC, coordonnateur des opérations humanitaires, joint à la mi-journée.
Il y a beaucoup de cadavres dans les rues, beaucoup de personnes tuées. Les services de base à Goma sont toujours très gravement perturbés, l'eau, l'électricité. Les hôpitaux sont débordés, donc ils n'arrivent plus à gérer l'afflux des blessés. Simplement hier, dans l'hôpital principal pour gérer les cas graves, il y a eu 256 blessés, des blessés par balle, des blessés par éclat d'obus, donc beaucoup de blessés graves.
Beaucoup de blessés graves, mais difficile pour l'heure de donner des chiffres précis sur le nombre de victimes. Les hôpitaux qui font face à l'afflux de blessés ont aussi reçu ce mardi de nombreux corps sans vie.
Merci Pierre Firsion. Et puis le M23, je le rappelle, soutenu par l'armée rwandaise, est donc ce soir présent dans une grande partie de la ville de Goma. Plus de 1000 réfugiés ont été accueillis dans un centre au Rwanda, à une dizaine de kilomètres à la frontière, dans la localité de Rudyerero. Reportage, Lucie Mouillot.
Sur le terrain qui sert de centre d'accueil, les réfugiés arrivent par centaines en bus et en camion. Destin Kela, 24 ans, n'a pu prendre qu'un sac à dos avec lui en quittant Goma. Avec ses amis, il a préféré tenter sa chance dans la matinée, malgré les échanges de tirs encore en cours.
Auprès de nous, il y avait vraiment des voisins qui sont morts. On vient de laisser des cadavres dans le quartier, des jeunes blessés. Alors on s'est dit, au lieu d'attendre que ça nous tombe dessus, Il faut vraiment prendre notre destin en main et essayer un peu de partir coûte que coûte. C'est un désastre. Il y a vraiment des choses horribles. Il y a des cadavres, on passe sur des cadavres. Il y a vraiment des choses pas vraiment bonnes à voir.
Quelques tentes pour soigner les blessés sont installées dans le centre qui dénombrait à la mi-journée 1200 personnes. Certains venus avec des matelas, des couvertures et beaucoup d'affaires pour rejoindre la frontière. Akili Malilok, habitant de Bukavu en visite à Goma, avait rejoint un large groupe pour traverser la ville.
On s'était dit mais trop c'est trop, il ne faut pas qu'on reste ici. Ils viennent juste de faire la centre-ville un champ de bataille. On s'était dit mais c'est trop dangereux, il faut qu'on se déplace un tout petit peu. Voir qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut se réfugier, courir. Et puis du coup, on était arrivé à la frontière. Fort heureusement, on nous a accueillis sans aucun problème.
Les autorités rwandaises se préparent à des arrivées massives de réfugiés. Le centre de Rugerero peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes et un autre site est en cours de préparation. Lucie Mouillot, Guisseni, RFI.
Dans l'actualité également au Bénin, suite du procès Olivier Boko, Oswald Omeki et leur co-accusé, procès sans avocat de la défense. Ce mardi, les prévenus se sont effectivement présentés sans conseil. Ils ont affirmé que l'administration pénitentiaire ne leur a pas facilité la tâche. En tout cas, pour la Cour, les accusés sont seuls responsables de l'absence d'avocat à leur côté. Jean-Luc Aplogan, ce mardi à l'audience, les deux principaux accusés ont donc choisi d'observer le silence.
C'est Oswald Omeki, le premier, qui annonce les couleurs. La présidente de la Cour lui demande sa réaction après la déposition de plusieurs témoins et de trois co-accusés. Il commence par « Il existe un Dieu ». La magistrate le recadre. « Nous ne sommes pas dans une église ici. » Oswald Omeki ne s'arrête pas, il déroule et lance. « Si vous estimez que ce que vous avez entendu ici est cohérent, condamnez-moi. J'aurais souhaité répondre avec mes avocats. Je n'en ai pas, je préfère garder le silence. » Olivier Boko dit la même chose. « Je ne peux pas vous répondre sans mes avocats, » dit l'homme d'affaires. La Cour leur donne acte, ils retournent à leur place et ne diront plus rien jusqu'au renvoi de l'audience à demain. Dans la matinée, le commandant de la garde présidentielle a donné sa version des faits. Son récit met Oswald Omeki au centre de tout. Quand on lui demande pourquoi il n'a pas dissuadé Oswald Omeki au début de la proposition, il répond « J'ai pris le risque de gérer et j'ai informé mon patron au bon moment ».
Jean-Luc Aplogan. Et puis, mobilisation dans plusieurs villes du Burkina Faso pour célébrer le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Un retrait qui sera effectif ce mercredi. À Ouagadougou, des milliers de personnes se sont donc rassemblées, place de la Révolution, avec un message, le soutien aux autorités de la transition des trois pays dans leur lutte pour, je cite, la souveraineté et l'indépendance réelle.
À bas la CEDEAO, vive l'AIS. Je voulais dire à toute la population, soyez courageux et soutenez les trois présidents.
L'objectif de cette manifestation, c'est pour témoigner notre engagement, notre détermination, notre attachement aux trois présidents de l'AIS qui ont pris un chemin de non-retour et une dynamique en tout cas qui va dans le sens des aspirations des trois peuples et de l'Afrique, si on peut le dire, et même mondiale.
Nous sommes là pour dire non à la CEDEAO, que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Voilà que nous, à partir d'aujourd'hui, on est derrière nos autorités pour les accompagner de se retirer complètement.
Et nous, aujourd'hui, nous sommes sortis pour dire merci à Dieu et dire merci à nos autorités de nous avoir donné notre indépendance véritable, de nous avoir donné notre souveraineté véritable. Et nous demandons qu'à partir de ces instants, le 28 janvier soit notre journée d'indépendance pour les pays de l'AES.
Voilà, et même son de cloche hein, au Niger voisin où des milliers de personnes ont également manifesté dans plusieurs villes du pays. L'Algérie indique ce mardi avoir convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour dénoncer des traitements dégradants auxquels auraient été soumis des passagers algériens arrivés dans des aéroports parisiens. Dans un communiqué officiel, Alger exprime sa profonde préoccupation face aux témoignages concordants d'un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la police aux frontières au niveau des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. Et puis des milliers de familles ont fui leur foyer dans l'état du Darfour Nord dans l'ouest du Soudan en raison de l'accroissement des attaques des paramilitaires, annonce faite ce mardi par l'Organisation internationale pour les migrations. Il est 20h40.